Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre. Le crépuscule de Los Angeles. Bonus.
Conner. Comme au démarrage de l'ère technologique avec le Frigidaire, qui était une marque de réfrigérateur, Conner, à l'origine un nom propre de marque, est devenu un nom commun pour les respirateurs avec filtre intégré. À l'époque, c'est un Indien, Ananda Harimendrane, qui l'a inventé. L'Inde, premier pays par la population avec plus d'1,5 milliard d'habitants, ayant lancé une industrialisation lourde à outrance, était tellement polluée que de plus en plus d'habitants étaient obligés de porter ce type d'appareil. C'est un ingénieur particulièrement doué qui avait réussi à miniaturiser un petit peu le système pour que ça soit plus facile à vivre. Il l'avait appelé Connect Air, mais au moment de développer sa marque à l'international, il s'était rendu compte que le nom existait déjà. C'était donc devenu Conner. Il en existe deux versions, la version légère et la version intégrale. La version légère ne couvre que le nez. On l'utilise dans des endroits où le fait de respirer l'atmosphère peut être gênant, mais pour quelques bouffées n'est pas dangereux. Ça permet ainsi d'avoir la bouche libre pour pouvoir parler, boire et s'alimenter. Un système de clips existe, et généralement on achète toujours une version intégrale. On déclipse la partie qui vient prendre la bouche et le menton et on le porte sur soi, au cas où. La partie intégrale, elle, permet de respirer normalement avec le nez et avec la bouche, mais du coup, on a une voix un petit peu transformée à cause de l'électronique, et il faut l'enlever pour pouvoir manger. Après l'avoir développé dans son pays, il a commencé à le vendre à l'international. Et c'est pour ça que le nom de sa marque est devenu le nom commun de l'objet, car très rapidement, vu la masse qu'il pouvait vendre dans son propre pays, et donc les économies de coûts qu'il pouvait faire sur la fabrication, même s'il existe d'autres marques aujourd'hui, c'est toujours Conner qui est le plus connu. Sur l'ancienne Terre aujourd'hui, il a plus de 50% de part de marché. Et dans tout le système solaire, pratiquement un respirateur sur trois est un Conner. C'est un petit peu moins vrai quand on commence à s'éloigner du système solaire, mais il est bien toujours présent. Le terme de SPACON vient de Space et de Conner. Au début, tous les humains qui étaient nés dans l'espace n'en avaient pas forcément besoin. Les planètes du système solaire avaient été colonisées grâce à des bulles dans lesquelles on maîtrisait l'atmosphère. C'est ensuite, lors de la grande expansion, que l'on a commencé à vouloir pouvoir faire vivre des humains sur des planètes où l'atmosphère était, disons, vivable, mais pas forcément adaptée aux personnes trop sensibles. Et du coup, tous ceux nés dans l'espace, c'est-à-dire dans des atmosphères particulièrement contrôlées, ont eu obligation, pratiquement partout, de porter un respirateur. On les a donc appelés les SPACON. Les PLACON, ceux qui sont nés sur une planète, ont le même problème, ils ont besoin d'un Conner. Là aussi, la plupart du temps, à l'origine, dû à la pollution, sur l'ancienne Terre, puis ensuite, quand il a fallu aller sur ces nouvelles planètes, où l'on ne voulait pas créer de bulles alors que l'atmosphère n'était pas parfaite, forcément, d'où le terme de PLACON. L'anecdote raconte que le terme de Platon n'est pas un dérivé de Placon. Il s'agit en fait d'une blague qu'aurait fait un homme politique canadien au moment où Ananda, voulant attaquer le marché nord-américain, avait recruté un Québécois pour aller essayer d'en vendre un petit peu partout au Canada. Le Canada, il est vrai, à l'époque, était l'un des rares pays développés où il restait encore des zones absolument gigantesques, toutes les forêts du milieu du pays, où l'on n'avait pas besoin de respirateur, où l'air était pur. Le Canada est d'ailleurs resté pratiquement l'un des derniers pays développés à garder de l'air pur, tout au moins avant la période de la grande expansion spatiale. Et donc le président du Canada qui recevait Damien Auvert, on a gardé son nom, le représentant de Conner pour le Canada, le président donc lui expliquait que dans le pays, il n'y avait pas besoin de respirateur, l'air étant respirable, voire pur. En bon québécois, Damien Auvert avait alors utilisé une expression typiquement de là-bas, « c'est plate ». Ce qui veut dire « c'est dommage, c'est ennuyeux ». Ennuyeux pas dans le sens des ennuis, mais ennuyeux dans le sens « on s'ennuie ». Et l'expression était restée, et donc de plate, on avait fait Platon. Les humains qui, c'est plate, n'avaient pas besoin d'acheter un Conner pour pouvoir vivre dans l'atmosphère où ils étaient. Ubriel est très connu comme ville virtuelle, mais ce n'est pas la plus grande. New Calanda, par exemple, l'une des plus grandes, compte 159 millions d'habitants. Ubriel, c'est beaucoup moins. Mais elle est très connue, parce que les règles y sont particulièrement strictes, et surtout parce que dans l'histoire, on a retenu que c'était la première ville virtuelle à avoir établi de telles règles. On n'a jamais su le nom de la personne qui l'avait créée. À l'époque, soit qu'il ait peur du fisc, soit qu'il ait peur, ayant fait fortune pour sa sécurité, il a toujours gardé l'anonymat. C'est effectivement le premier à avoir, dans la foule de villes virtuelles qui se lançaient à l'époque, édicté des règles, non pas les règles habituelles que l'on trouve dans le monde réel, mais des règles dans le monde virtuel lui-même. Ainsi, il y avait un code de la route au sein du Briel. À l'époque, ça paraissait complètement fou. Il y avait des règles de bonne conduite, et il y avait une police qui était là pour la faire respecter. Ça paraissait fou parce que c'était extrêmement compliqué de créer ces règles, de modifier les codes du monde virtuel pour que cela soit possible, et surtout de pouvoir les faire respecter. Cela avait, à l'époque, fait une mauvaise publicité à Ubriel. Des gens décidaient d'aller plutôt à l'endroit où c'était encore le Far West, comme au début, et puis d'autres, au contraire, qui étaient dans Ubriel, avaient fini par partir, soit qu'elles trouvent les règles trop contraignantes, soit qu'elles soient victimes trop souvent des amendes ou des interdictions. Avec le temps, avec l'anarchie de certaines villes virtuelles, on avait fini par faire comme à Ubriel, à édicter des règles. On n'avait pas forcément été aussi loin, mais la différence était faite. Ubriel avait fait ça bien avant les autres, les règles étaient très strictes, et si effectivement ça lui avait coûté moins d'afflux de visiteurs, et ensuite de citoyens, et potentiellement des départs, d'autres, au contraire, étaient venus explicitement là pour être tranquilles. Et ceux qui y vivaient avaient fini par trouver ces contraintes garantes de leur confort. Et c'est ainsi qu'avec le temps, au sein du Briel, s'était développée la plus grande communauté, on va dire, pacifiée, et où les choses étaient bien carrées. C'était forcément le cas à Ubriel, plus qu'ailleurs. D'où l'intérêt de Loon, puisque l'Iamas a tout son sens à cet endroit-là. Juste pour revenir sur l'Iamas, c'est une sorte de police qui sait agir à la fois à l'intérieur des villes virtuelles, mais aussi dans le monde réel, potentiellement sur le code, et donc sur les comptes, et potentiellement utiliser la loi du monde réel contre les personnes qui feraient des vilaines choses au sein des mondes virtuels. IAMAS, on a fini par oublier ce que ça voulait dire. Pratiquement dans chaque pays et dans chaque langue, on a trouvé un sens à ce sigle. Généralement, on retient quelque chose comme International Association of Metropolitan Authority Securities. Mais rien ne dit que ça voulait dire ça au démarrage. Des mauvaises langues utilisent même le M pour parler de militaire. Nous ne trancherons pas. Pour finir, quelques détails sur le cycle de Yom. Un dénommé Clem Hansrider, un éco-terroriste tellement bien caché que même les autorités ne connaissent pas son existence, et qui se fait passer pour le plus grand connaisseur de l'œuvre d'Ernest Rendish, car on lui aurait oralement retransmis pratiquement la totalité des textes fondamentaux des trois livres du cycle, a une théorie bien à lui, mais qui fait finalement autorité sur la communauté des éco-terroristes. La première question que l'on se pose, c'est pourquoi un titre, le premier livre, Carte, faisant référence à une langue du sous-continent indien de l'époque, et ensuite le deuxième et le troisième livre, Le Crépuscule, l'Apocalypse, dans la langue d'Ernest. Ernest était un néo-zélandais qui avait épousé une française, laquelle avait fait des études sur l'histoire de la colonisation quelques siècles auparavant, et entre autres s'était intéressé à l'Inde, qui avait donné entre-temps quelques très très grands écologistes, et qui était un pays de référence pour les éco-terroristes. Le terme de kafté, effectivement, à l'époque, en tamoul, signifiait aube, et Clem, en racontant ce qu'il savait ou ce qu'il pensait savoir de ces trois livres, expliquait la rupture qu'il fallait comprendre dans l'histoire entre ce premier livre, dont l'indice était justement une langue différente pour le titre, et les deux suivants. L'aube, kafté, racontait l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui quittait la Terre au moment de la première expansion au sein du système solaire pour aller porter la bonne parole de l'écologie dans une des planètes qui avait été ouverte à l'époque à la colonisation. Pour Clem, ce qu'il fallait voir dans cette histoire, ce n'était pas l'aube pour la civilisation humaine qui commençait son expansion spatiale, non plus que l'aube ou le renouveau pour ce groupe d'humains, mais plutôt l'aube pour Gaïa, l'aube pour la Terre. Sa symbolique reposait sur le fait que le départ de ces humains, qui la respectaient, signifiait en fait une sorte d'exode depuis la Terre, de tous les miséreux, généralement les premiers à partir à l'aventure, parce qu'ils n'ont rien à perdre, et de tous ceux qui, respectant la Terre, voulaient la quitter pour arrêter de la polluer, et aussi pour porter la bonne parole et éviter que l'on ne pollue d'autres planètes. Ce faisant, la Terre, d'une certaine manière, voyait les populations qui la respectaient la quitter, ne laissant que, entre guillemets, les pollueurs et les méchants. Ce qui ouvrait la porte à une possibilité de vengeance dévastatrice sans qu'il y ait de perte parmi les bons. Le deuxième et le troisième livre, Le Crépuscule et l'Apocalypse, étaient au contraire liés à ce qu'il se passait sur Terre du point de vue des humains, puisque le deuxième puis le troisième livre racontaient ce qui arrivait aux amis de ceux qui étaient partis dans le premier tome et qui étaient restés sur Terre. Pas forcément des mauvais, pas forcément des gens qui s'étaient moqués d'eux et qui manquaient de respect à Gaïa, peut-être simplement des gens qui n'avaient pas voulu participer à l'expansion spatiale et qui, dans le deuxième tome, avaient vu la planète connaître son crépuscule, non pas à cause de la vengeance, mais simplement à cause de la pollution, des guerres, de tout ce que l'humanité avait pu produire de plus rude et de plus abject. L'Apocalypse, le troisième livre, était lui la vengeance de Gaïa. C'est là qu'effectivement les catastrophes naturelles, ou, diront certains, surnaturelles, commençaient à dévaster la civilisation humaine. Si certains trouvaient l'explication un petit peu confuse, entre autres sur Kafté, l'aube pouvant signifier au contraire le fait que l'expansion humaine commençait comme une aube prometteuse, avec le départ vers l'espace d'humains qui étaient respectueux et voulaient faire respecter les planètes, la thèse est généralement admise, puisque dans ce premier livre, on suit un groupe d'humains, que dans le deuxième et le troisième, avec la langue du titre qui est différente, on s'attache à d'autres êtres humains, qui eux sont restés sur la Terre. On parle donc plutôt de la civilisation, le crépuscule, l'apocalypse. L'aube, Kafté, était plutôt l'aube de la renaissance de Gaïa, puisque elle allait pouvoir se venger et, peut-être, on espérait, chasser les humains pour pouvoir se reconstruire. Bien sûr, les éco-terroristes ont toujours beaucoup à faire, car l'ancienne Terre est toujours aussi polluée, qu'il y a toujours autant d'humains et autant d'industries dessus. Malheureusement, il y a bien eu un apocalypse, mais il a beaucoup plus été dû à la civilisation humaine qu'à des catastrophes naturelles, même s'il y en a eu de plus en plus. En tout cas, on n'a pas abandonné l'ancienne Terre, on continue à la polluer, elle ne va pas se reconstruire comme ça. Le terme de Redust n'apparaît que dans le troisième livre, l'Apocalypse. Il est issu, de la même manière, d'une sorte de mauvaise traduction, d'une autre mauvaise traduction phonétique, du tamoul, et d'un terme qui était utilisé en Inde à l'époque, dans les légendes, pour désigner, chez les animaux, un membre de la portée qui était différent, malade ou handicapé, et qui allait apporter tout un tas de problèmes à ses frères et sœurs et à ses parents si jamais ces derniers ne le sacrifiaient pas. La philosophie de l'époque, en termes de Redust, en avait fait un élément mauvais de destruction, et qui finalement était devenu positif dans la culture populaire, car on y voyait l'intervention des dieux pour essayer de réduire ce qui, à l'époque, était considéré comme des concurrents, le Redust étant généralement associé aux tigres et aux grands prédateurs. Ces derniers, évidemment, n'ont pas d'œufs. On pense que c'est Ernest Arendish qui a gardé cette idée d'enfant dont le pouvoir finirait par détruire tout ce qu'il y a autour, sans être toutefois considéré comme quelque chose de négatif, puisque cette destruction permettait à d'autres êtres vivants de vivre mieux dans cet environnement. On pense donc qu'Ernest Arendish en a fait une sorte d'instrument de vengeance ou d'équilibre des dieux pour revenir à une sorte d'état originel, meilleur. D'où la notion de Redust et d'où la notion de cet œuf créé par Gaïa pour se venger, pour détruire ce qui lui fait du mal et ce qui l'a pourri, pour revenir à un état premier.